Bienvenue dans le podcast Sur la Terre des Hommes. Pour profiter au maximum de l'expérience du podcast, prenez quelques minutes pour aimer notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Threads au SLTDHPod et sur Instagram au Sur la Terre des Hommes podcast. Si vous êtes abonné au podcast, prenez une minute pour nous laisser un avis. Vous allez ainsi faire grimper le podcast dans le moteur de recherche. Finalement, si vous voulez encourager Sur la Terre des Hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com. patreon.com. Recherchez Sur la Terre des Hommes et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Bienvenue sur la Terre des Hommes. Cet épisode de Sur la Terre des Hommes est présenté par Construction Rivard. La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons éco-énergétiques. Un des seuls en Abitibi-Témiscamingue qui construit des maisons Nouveau Climat est prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S, rivard.com ou contactez-les au 819-279-6188.
On voit ce croissant de soleil qui devient de plus en plus mince, de plus en plus mince.
Est-ce qu'on devrait voir bientôt la fameuse bague à diamants, hein, Charles?
On devrait voir les perles de Bailey d'abord, qui, au fond, sont tout simplement le reflet lumineux des vallées profondes de la Lune par lesquelles passent les rayons du soleil et nous atteignent. On devrait les voir quelques secondes avant la totalité. Et juste avant la totalité, probablement, la bague à diamant. Si ça ne se produit pas maintenant, ça se produira après l'éclipse totale.
Donc, on peut dire que c'est vraiment le dernier croissant de lumière là, qu'on voit avant sa totalité, à 15h26 et 57 minutes. On y approche. Écoutez les gens. Alors, nous sommes dans la totalité. Vivons le moment, Charles.
Wow! C'est extraordinaire! C'est extraordinairement brillant! On la voit tellement bien, l'éclipse! C'est à couper le souffle! C'est émerveillant! C'est une beauté à couper le souffle!
Et c'est d'autant plus remarquable que tous les grands édifices du centre-ville de Montréal actuellement sont illuminés. Comme si les lumières automatiquement s'étaient allumées.
Le centre-ville de Montréal répond à la lune et au soleil. Mais regardez comme la couronne est flamboyante, comme elle est visible.
Et on voit des petites taches oranges autour, hein? Vous voyez, hein? On voit un peu d'oranger.
Oui.
Est-ce que ce sont les perles de Bailey, ça?
Les perles de Bailey ont peut-être eu lieu, mais je ne les ai pas vues avec mes lunettes avant la totale. Mais ce qu'on voit peut-être, ce sont peut-être de petites éruptions solaires. Hop. Et ça, c'est une perle de Bailey. On remet les lunettes.
Et là, on revient dans la partialité.
Absolument. C'est ça.
Donc, on vient de vivre une éclipse totale pour une période d'environ 1 minute 26 secondes.
Et comme le disait Laurie tout à l'heure, on peut s'émerveiller devant ce spectacle et se dire que ça fait des millions d'années que notre espèce évolue pour pouvoir apprécier un spectacle comme celui-là. Ça nous donne une idée de l'échelle du temps cosmique qui, à notre échelle, est infinitésimale, mais qui, en même temps, nous permet, dans ce bref instant de nos vies, d'apprécier la beauté extraordinaire de ce moment.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 293 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu?
Hey, salut Jim, il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Oui, ça...
un petit 24 heures depuis le dernier épisode. C'est une grosse semaine, puis
oui.
C'est le fun. C'est deux sujets qui sont diamétralement opposés. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon, les éclipses, donc c'est pas pire. On va ratisser quand même assez large avec notre auditoire, je pense, cette semaine.
Absolument, puis je commence à y prendre goût, Joe, deux épisodes par semaine. Qui sait, peut-être, allons-nous
en
faire...
pendant l'été. T'sais, l'été, on fait pas de podcast quand ça devrait être le temps où on en fait le plus. T'sais. Ça serait peut-être mieux d'en faire là deux par semaine
que
pendant une année scolaire, mettons.
Exactement, puis l'été, moi, je suis pas mal proche de chez vous, à Rouen. Hein? Je suis à mon camping. Alors, qui sait, peut-être cet été, allons-nous faire des podcasts si le temps nous le permet. Fait que ça va bien, mon cher?
Ça va très bien. J'ai hâte de l'épisode de ce soir. On a de la belle visite que j'apprécie toujours énormément. Donc, oui, je suis bien content.
Absolument, de la visite. Écoute, on en parlait avant d'entrer en onde. Ça fait...
La visite cosmique.
Ça fait un an, oui. Alors, comme une éclipse, il se présente une fois par année au-dessus de nos têtes. Claude Lafleur, comment vas-tu?
Ça va très bien. Salut Jérémy, salut Jonathan. Toujours un plaisir de vous retrouver.
Oui, absolument. Ben, Claude,
tant mieux, c'est réciproque.
Ça n'a aucun bon sens, Claude, au-dessus d'un an sans se parler. Nous qui en faisions, devrais-je dire, dans les années passées, presque trois par année. Là, ça faisait au-dessus d'un an qu'on ne s'était pas parlé, mon cher.
J'imagine, hein, vous sentez la même chose que nous autres, que moi. Le temps passe vite. Hein,
ça va vite.
Puis à un moment donné, on se rend compte que ça fait tant de temps qu'on n'a pas parlé à quelqu'un. Fait que le temps passe vite de votre côté, du mien. On est tous occupés.
Oui.
Mais c'est toujours un plaisir de vous rencontrer.
Absolument. Et puis, Claude, il fallait qu'on parle de ce sujet-là. On a attendu quelques semaines parce que si on avait fait un épisode la semaine même, je crois que les gens en auraient eu vraiment ras-le-bol d'en entendre parler. Mais là, c'est le temps. Après, trois semaines plus tard, on va parler de l'éclipse qu'on a vécue le 8 avril dernier. Je sais que tu as fait un épisode dans ton balado « Voyage dans l'espace » sur le sujet. Tu disais que vous n'étiez pas supposé en faire un. Est-ce que c'est bien ça?
Deux choses. L'une, c'est que, évidemment, tout le monde sait qu'à venir jusqu'au 7 avril, on en a parlé abondamment dans les médias.
Ça n'avait aucun bon sens.
Des reportages. Exactement, ça n'avait aucun bon sens.
Ouais. Tu as l'impression qu'on en a trop parlé, Claude, justement, qu'on a surexploité le sujet?
Je pense que oui. En fait, là, on a vu un peu la puissance des médias. Quand tous les médias se consacrent sur un même sujet, tout le monde essaie de trouver un angle, tout le monde essaie d'en parler. Au lieu de peut-être dire qu'il y a des médias un peu plus spécialisés que d'autres, pas besoin d'en parler dans une émission d'économie, pas besoin d'en parler dans une émission de cuisine, pas besoin d'en parler dans une...
les éclairs au chocolat.
Ben, c'est ça, il y a des... c'est pour ça que je n'avais pas l'intention d'en faire. Et moi, le balado, je le fais avec des amis européens. Là. Mes deux collaborateurs sont en Europe et Florent, entre autres, mon principal collaborateur, m'a dit, Claude, nous, en Europe, on n'a pas entendu parler beaucoup. Fait qu'on aimait ça que tu nous en parles. Bon, je dis, OK, d'accord. Fait que c'était pas prévu d'en parler. En même temps, le titre du balado, pour moi, il est très significatif. C'est, pour moi, j'ai appelé ça l'expérience d'une vie parce que, comme je le raconte, puis je vais vous le raconter probablement tantôt, c'est pas un phénomène astronomique. C'est un phénomène social, c'est un phénomène humain, c'est une expérience humaine avant toute chose. J'ai vécu d'ailleurs avec des gens qui ne s'intéressent pas plus que ça aux choses spatiales, mais qui ont vécu aussi quelque chose. Donc, je mets plus l'accent sur le côté humain. Bon, on va pas m'expliquer qu'est-ce qu'une éclipse, bien que ça a été expliqué à nauséam, mais c'est vraiment beaucoup plus qu'un phénomène astronomique, beaucoup plus un phénomène social. Mais le phénomène social, on l'a un peu tous vécu, le délire médiatique, les reportages, les la controverse, est-ce qu'on devrait fermer, oui ou non, les écoles, etc.
On va
et l'expérience humaine que ceux qui ont eu la chance d'aller dans la totalité ont vécu, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Moi, depuis 50 ans, je lis des articles sur les éclipses qui ont lieu un peu partout à travers le monde. J'en ai beaucoup entendu parler depuis 50 ans, mais je n'avais jamais imaginé le choc que ça cause dans une société, l'enthousiasme que ça cause avant, là, on en a parlé, puis aller. Puis ensuite, l'expérience humaine, on peut le lire dans les journaux, c'est quand on le vit qu'on le voit vraiment. Et ça a été pour moi la grande découverte. C'est pas le phénomène astronomique. Soit dit en passant, c'était ma première éclipse, donc c'est la première fois que j'en voyais une, mais je pensais pas qu'une société réagissait comme nous, on se réagit, mais c'est de même partout à travers la planète.
Dirais-tu, Claude, tu parles d'une expérience sociale, dirais-tu que on pourrait même aller jusqu'à l'expérience quasiment spirituelle, dans le sens que pendant quelques minutes, là, pendant même que pour certaines régions au Québec, quelques secondes, là, tout le monde avait les yeux vers le ciel. Là. Tout le monde regardait l'éclipse en même temps. C'était quelque chose quand même. C'est un phénomène là, quand même de dire qu'encore en 2024, on est encore émerveillé par un phénomène astronomique de la sorte. T'sais, aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait dire ben oui, c'est un éclipse. Puis,
c'est ça. Tout. Enfin, j'imagine.
On pense à autre chose.
On pense à autre chose, mais vous n'avez pas eu la chance de la voir. Là. Vous avez eu une éclipse partielle.
Partielle,
nous, on a eu à 90% à peu près. Quand même, c'est quand pire. Même. Ouais, moi, pour vrai, j'étais vraiment satisfait. Puis j'étais surtout surpris parce que c'est un mini croissant là, qui n'était pas couvert. C'était pas assez pour que ce soit la noirceur totale.
Ouais, ouais.
Mais on a eu des conditions idéales, presque pas de nuages. Donc, ça a été quand même probablement peut-être pas aussi intense que ceux qui l'ont eu à 100%, mais je me suis très bien satisfait et comblé de cette situation-là.
Ah ben, je suis un peu désolé de ce que je vais vous raconter par après, parce que quand arrive la noirceur totale, d'abord, c'est pas la noirceur, on voit, c'est clair. C'est un peu comme des fois, on voit venir une grosse tempête, là, ça va tomber dans quelques minutes, tout devient sombre, c'est à peu près ce phénomène-là, mais 10 ou 100 fois pire. Et il règne, je dirais, au moment de la totalité, je dirais, une espèce d'atmosphère de fin du monde. Je comprends les peuples qui ne savaient pas ce qui se passait. Eux pensaient que c'était la fin du monde, que le soleil venait disparaître, parce que c'est vraiment presque épeurant. Il fait noir soudainement, on voit quand même, c'est clair. Et tout autour, en périphérie, on voit à l'horizon, où là, on est en dehors de la zone, on voit que c'est clair. Fait que c'est comme s'il y a un gros nuage au-dessus de notre tête. Il y a évidemment, la température a baissé. Je ne sais pas si vous l'avez senti à 90%, mais on sent la température baisser.
Oui, on l'a senti,
C'est vraiment épeurant. C'est vraiment épeurant. Moi, d'ailleurs, moi, où j'étais au sud de Montréal. À Montréal, d'où j'étais, j'aurais pu l'avoir dans mon appartement. J'aurais eu à peu près une minute de noirceur, mais où je suis allé, j'avais 3 minutes 20 secondes. Et j'ai surtout regardé autour de moi, j'ai regardé le ciel. J'ai moins regardé l'éclipse en tant que telle, parce qu'il y a des photos qui la voient, puis etc.
Tu vois des meilleures images sur Internet.
Ben, c'est ça exactement, mais c'est l'atmosphère qu'il y avait autour, vraiment une atmosphère de fin du monde. Tu as l'impression d'ailleurs qu'il y a un gros nuage au-dessus de ta tête, puis que le ciel va te tomber sur la tête. C'est vraiment très impressionnant. Puis tout le monde autour réagit, certains crient, certains pleurent, certains ne savent pas trop comment réagir. D'ailleurs, je me mets dans cette catégorie-là. Là. C'est hallucinant.
Non, vraiment, là, moi, j'ai été surpris. T'sais, la veille, je me disais. Tu sais, j'avais vu des photos, puis justement, des photos et des vidéos. J'aimerais vous présenter pendant l'épisode de ce soir une des dernières éclipses totales qu'on a vécues au Québec en 1963, près de Trois-Rivières, à Grand-Mère, OK? Shawinigan, Grand-Mère, tout ça. Puis, je me disais, tu sais, ça sera pas comme ça. Dans les années 60, OK, on avait peut-être l'impression, comme tu dis si bien, Claude, une impression de fin du monde. On est comme « Ah, il fait noir! » Puis on est tous impressionnés. Mais je me suis dit, en 2024, voyons, on est rendu ailleurs. Mais même nous, en Abitibi-Témiscamingue, là, il y avait cette ambiance-là de... Même si c'était à 90%, on n'a pas vécu la totale. Puis les jeunes à mon école, ils étaient émerveillés. On a eu des commentaires disant... tu sais, je ne reverrai plus jamais ça dans ma vie. Puis, comme on vient de le dire, c'est à 90%. Imagine la totale. Toi, la manière que tu as vécu ça, Claude, tu disais que tu étais dans le sud de Montréal, sur l'île de Montréal, ou bien tu es allé sur l'île Sainte-Hélène?
J'étais à Bedford, qui est à peu près 75 km au sud de Montréal.
OK.
Donc j'ai pris une heure de route. Dans le sud du Québec. Une heure de route. Oui, tout à fait.
OK. Parfait.
Fait que j'ai pris la peine de me déplacer, puis ça valait la peine d'avoir 3 minutes 20 secondes. Dans les meilleures conditions, les meilleures éclipses absolues, c'est à peu près 7 minutes et demie. C'était pas le cas. Je pense que cette éclipse-ci, dans les meilleurs endroits, durait à peu près 7 minutes et demie. 6 minutes et demie, là, tu sais. Mais
quand même.
Ben oui, c'est ça. Mais ici où j'étais, moi, c'était 3 minutes et demie. J'en aurais pris plus, mais disons que oui, c'est ça, on va se situer. Mmh. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Hein? À traverser le continent nord-américain en diagonale, en partant du Mexique jusqu'à se terminer ben, dans les maritimes, oui. Là, on était. Et je pense, d'après les rapports que j'ai eus, là, je dis ça sous réserve, je n'ai pas systématiquement, je pense qu'on a eu à peu près les meilleures conditions d'observation en Amérique du Nord. Parce qu'entre autres, théoriquement, l'endroit le meilleur, c'était au Texas. Au Texas, c'était très nuageux. Ils l'ont à peine entrevu. Okay. On a vraiment, vraiment été chanceux au Québec. Puis quand on regarde la météo qu'on a eue avant l'éclipse, depuis l'éclipse, à peu près chaque jour, c'est des journées d'automne, il pleut, il fait froid, etc. On a eu trois belles journées ce printemps. Ben, les trois belles journées, c'était la veille, la journée, puis le lendemain de l'éclipse.
T'as raison.
On a vraiment été chanceux.
En avril, c'est pas mal les seules belles journées qu'on a eues. C'était la journée de l'éclipse.
Absolument. C'est ça.
Ouais, mais, pour mais, l'anecdote, il annonce moins 21 demain en Abitibi. Fait que...
Comment tu dis ça?
Il annonce moins 21 demain en Abitibi, justement. Oh. Fait qu'on a été chanceux.
Ben, absolument, oui, on était chanceux. Puis mes amis astronomes me disaient depuis des années, Claude, le 8 avril, il y a 70 % de chances de mauvais temps. Fait que, tu sais, il ne faut pas s'en faire, il ne faut pas espérer trop. Il y a 70 % de risque. Finalement, on a eu du super beau temps. On était extrêmement chanceux.
Absolument. Et puis... Je ne sais pas si dans le chat, parce qu'en ce moment, on est live partout sur nos plateformes et pages Facebook, mais moi, j'ai suivi ça. J'avais en après-midi, j'avais une période libre à l'école et puis je me suis dit, je vais aller voir sur YouTube, voir s'il y a des vidéos live de l'éclipse un peu partout. Puis, il y avait la NASA qui, un peu partout aux États-Unis, suivait l'éclipse, justement. Alors, même au Mexique, alors j'ai vécu l'éclipse 5 fois avant de me rendre dehors. C'est impressionnant, ça n'a aucun bon sens. Puis là, je vais vous montrer une photo qui a été prise à Mégantic. Où est-ce qu'il y a l'observatoire, justement, le plus bel observatoire, l'endroit où est-ce, au Québec où est-ce que c'est l'endroit idéal pour regarder les étoiles, etc. Et puis, l'éclipse passait devant l'observatoire de Mégantic et cette image-là est ressortie. Regardez ce phénomène-là, c'est tellement, tellement impressionnant et beau à la fois. Oh.
D'ailleurs, une des chances qu'on a eues, c'est que parfois, la Lune cache encore plus le Soleil et il y a un tout petit halo de lumière, à peine quasiment visible, comme si la Lune cachait presque parfaitement le Soleil. Oui. Cette fois-ci, ben, la Lune ne cache pas parfaitement le Soleil, donc on a une partie du Soleil derrière, on a la couronne. Fait que c'était très spectaculaire parce qu'il y a des images, c'est à peine, des images de d'autres éclipses, là. C'est à peine si on voit, alors que là, on a un bel anneau de l'atmosphère du Soleil. C'était vraiment spectaculaire. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce que j'ai vu durant les 3 minutes qu'a duré l'éclipse.
Oui, exactement. Wow. Alors ça, c'est une photo qui a été prise à Mégantic, comme je disais. Là. C'est les plus belles images qu'on a pu avoir du 8 avril 2024.
L'autre chose que je disais, moi, j'avais dit à tout le monde, quand vous allez voir l'éclipse, ne prenez pas de photos. Là. Laissez faire les photos. Il y a des gens qui vont en prendre des belles meilleures.
Exactement, regardez, c'est ça que je me suis dit.
Profitez le moment présent. Là, ouais.
Comme dans moi, des gens qui prennent des photos avec leur cellulaire un peu n'importe comment, puis finalement, ils n'ont pas vécu le moment. Ils ont juste essayé de prendre des photos. Non.
Regardez le moment, puis il y a des gens. Puis moi, j'étais accompagné d'astronomes qui avaient des appareils spécialisés qui ont pris des très, très bonnes photos, un peu comme celles que tu viens de montrer. Regardez, vivez le moment présent, ça va durer. Et c'est, comme je disais dans mon balado, c'est vraiment l'expérience d'une vie. Hein. C'est la première fois que je vois une éclipse, puis c'est probablement la dernière fois de ma vie, parce qu'autrement, il faudrait que je me déplace. Puis je ne pense pas que ça va donner. Là, fait que il fallait profiter de l'occasion. L'éclipse passait au Québec à peu près une fois par 80 ans. Là, ben c'était aujourd'hui. La prochaine fois, c'était en 2106.
Oui, alors, je crois que
je pense que c'est en 2075 aux Îles-de-la-Madeleine, si on a vraiment...
Peut-être.
Oui, non, c'est ça. Il y avait juste cet endroit-là là, qui allait être touché par une autre éclipse totale. Puis je pense que c'est ça, c'est en 75, dans 57 ans, là, si je me trompe.
En 75, bien, rendu à la saison 77 de Sur la Terre des Hommes, 67 de Sur la Terre des Hommes, on ira, je te tirerai ta marchette, mon cher Joe, et puis on ira.
Hey, je vais avoir 97 ans, là, je ne suis pas sûr, je causais de la marchette.
Oui, c'est ça. 97, puis moi, en 75, ouais, c'est ça, je vais avoir 88. Alors
OK, moi, je vais avoir 115 ans, ou on a fait le même, 117 ans. Ouais, c'est ça. 117 ans.
Ben, je crois que nous trois, nous ne serons plus de ce monde.
Non, c'est ça, exactement.
Mais tu disais, ouais, en 2100...
C'est
2106, alors...
Ouais, c'est ce qu'on nous rapporte comme... incidemment, là, pour ceux et celles qui nous écoutent, là, il y a un site de la NASA, je pense, c'est tout simplement... vous tapez NASA Eclipse, avec un S, je pense. Et vous allez aller sur un site, il y a toutes les dates des éclipses passées, présentes et futures. Donc, vous pouvez voir, si vous avez pensé que vous avez vu une éclipse en 1960-quelque, à tel endroit, vous allez avoir toute la liste des éclipses de cette époque-là. Et vous avez toutes les éclipses des prochaines années, je pense jusqu'en 2080 ou quelque chose comme ça, avec toutes les dates, les heures, les cartes exactement. Fait que si vous pensez, vous pouvez regarder les éclipses où elles sont, si ça peut, ça pourrait donner que vous soyez en voyage à ce moment-là. Comme par exemple, il va y en avoir une belle éclipse en 2026 en Espagne et au Portugal. Donc, c'est possiblement au mois d'août d'ailleurs. Fait que ça peut être une éclipse atteignable parce que c'est pas trop loin. Mais comme je vous dis, il y a un site de la NASA, là, il donne toute la liste de toutes les éclipses avec toutes les précisions, toutes les cartes, tous les détails. Donc, si jamais ça vous tente peut-être de regarder qu'est-ce qui s'en vient, puis peut-être faire coïncider ça avec un voyage. Il y a des éclipses partout. Il y a des éclipses en Asie. Il y a des éclipses. Il y en a une, je pense, l'an prochain en Amérique du Sud. Mais en tout cas, allez voir le site de la NASA. Vous allez avoir toutes les informations. Évidemment, c'est en anglais, là, mais je veux dire, les dates, les chiffres, ça se lit assez bien.
Mm-hmm. Absolument. Excuse-moi, Claude, pendant que tu parlais de la NASA, je suis allé chercher justement le vidéo live que j'écoutais. Que je regardais, c'est-à-dire, alors je vais le mettre...
Il était vraiment bon, le stream de la NASA. Je l'ai écouté quand même un bon bout, moi aussi. Ah, puis je trouvais que c'était très dynamique, très pertinent.
Ah, la NASA font toujours des choses remarquables.
Ah, c'est...
Oui, exactement. C'est la place, si tu veux. Tu sais, si tu veux regarder quelque chose sur l'espace, c'est le budget. Il est là aussi, on s'entend.
C'est ça.
Alors, ça, c'était dans le fond, quand l'éclipse était visible pour la première fois sur le continent américain. Alors, c'est au Mexique, à Mazatlan.
Okay. C'est quand même amusant, là, on le voit en accéléré, mais de voir le soleil se faire gruger par la lune, là, il se fait croquer par la lune.
Comme un Pac-Man.
Ben, exactement. Tu vois, comme là, on a un tout petit anneau très, très mince. C'est beaucoup moins spectaculaire que ce que nous, on a vu. Là, c'est à peine si on voit la fin de l'éclipse, c'est presque parfaite à ce moment-là. Mais la perfection, c'est peut-être un petit peu moins intéressant que d'avoir une comme là, tu vois, là, ben là, ça devient un peu plus...
Oui, là, on voit justement la couronne solaire.
Ouais, ça commence à ressembler.
Mais c'est en temps réel parce qu'il y a un chronomètre en haut. Fait que c'est vraiment la noirceur. On est rendu à 52 secondes de noirceur.
C'est en temps réel. C'est l'éclipse du 8 avril en temps réel, mais pas au Québec, mais au Mexique. Alors, on s'entend.
Ça ressemble beaucoup.
C'est la même lune et le même soleil, on s'entend. Mais c'est ça. Là. Alors, vous voyez...
D'ailleurs, c'est un détail qu'on peut remarquer. Tu avais montré au début la carte qui monte une ligne qui traverse l'Amérique du Nord. C'est pas tout à fait ça. Ce qui traverse, c'est une zone d'ombre qui a à peu près 200 km de diamètre.
De forme conique un peu.
Le long d'une trajectoire. Fait que ce qu'on a vu, je dirais, c'est comme une voie ferrée. Mm. Puis l'éclipse, c'est comme un train qui se promène. Ce qui fait que l'éclipse au Mexique est arrivée, peut-être demi-heure avant nous. Puis le train traverse l'Amérique du Nord jusqu'au Québec. Mm. Donc, ce qu'on voit arriver, nous autres, c'est un cône d'ombre. Et on a vraiment vu arriver un nuage noir au-dessus de nos têtes qui est passé durant 3 minutes, puis qu'après ça, il continue son chemin. Fait que c'est vraiment impressionnant de voir qu'il arrive un cône d'ombre, comme s'il y a un train qui passait au-dessus de notre tête, puis il va passer en 3 minutes.
Un train qui passe, c'est quoi la vitesse que l'éclipse a traversé le continent? C'est 2000 km/h, 2500 km/h?
Peut-être quelque chose comme ça, tu sais, de partir du Mexique. On n'a pas les heures quand est-ce que ça a commencé. Tu sais, ça a pris peut-être une heure à traverser l'Amérique, de partir du Mexique jusqu'au maritime.
Le Mexique, je m'en souviens, quand j'ai regardé cette partie-là, c'était sur vers 1h de l'après-midi, là, vers 13h.
OK, donc ça a pris peut-être à peu près 2 heures à traverser l'Amérique du Nord. Ouais. En diagonale de part en part.
Okay, environ.
C'était terminé maritime environ une demi-heure après nous.
On voit, pour ceux qui sont en vidéo avec nous, on voit un pilote dans un avion, sûrement un avion de chasse de l'armée américaine, qui lui voit l'éclipse dans les cieux. Ça doit être vraiment incroyable de vivre cette expérience-là, être dans le ciel à vivre l'éclipse.
Puis de la poursuivre, effectivement.
Mais surtout avec un avion comme ça qui peut aller vraiment très rapide. On s'entend, c'est pas un avion de ligne qui va à 800 km/h. Ça peut aller bien plus
à Mach 2. Probablement qu'il était capable de la suivre. Je ne sais pas s'il l'a suivi tout le long. Là. Ben, probablement qu'il était à une vitesse suffisante qui lui permettait de la suivre. En tout cas, il a peut-être eu 10-15 minutes d'obscurité, là, lui.
Tu vas pouvoir dire qu'il a chassé une éclipse littéralement.
Absolument.
Exactement. Alors là, on voit qu'on est rendu à 3 minutes de l'éclipse. Alors, au Mexique, ça a duré plus de 3 minutes. Et là, sûrement qu'on va voir
le fameux
diamant qui va apparaître au, sur les rebords de la Lune. Excuse-moi, Claude, vas-y.
C'est ça. Non, c'est parce qu'on n'a pas vu. Il y a comme des fois, il y a comme on appelle un diamant, oui. Juste au moment... OK, là.
On va le voir apparaître, là, oui.
OK, c'est ça. Mais quand on l'a vu, nous autres, c'est un flash. Ça dure une fraction de seconde. Okay. Fait que, on a l'impression que c'est comme si le soleil nous photographiait en train de le regarder. Wow. C'est vraiment, ça a vraiment été comme un flash. Là, tu dis « wow ».
Alors là, on est rendu à 4 minutes d'éclipse. Alors, c'est très long. Toi, tu as dit que ça a duré combien de temps?
3 minutes 20 secondes.
Alors, tu vois, on a dépassé ce temps-là. On est rendu à 4 minutes.
C'est ça. Les conditions étaient meilleures. C'est sûr qu'il y en a des gens qui allaient aussi au Texas parce que la durée de l'éclipse était plus longue. Là,
exactement.
Les gens qui ont dû être les plus déçus, c'est ceux qui sont allés à Niagara Falls. À Niagara Falls, on avait organisé un gros truc.
Ce qu'on ne voit pas, c'est l'environnement autour, les gens autour, le ciel, l'ambiance dans laquelle on est. Ça, on le voit. OK, c'est ça le
diamant.
Le diamant. Oh, wow. OK, c'est exactement ça, le diamant. Sauf que d'autres, ça a été un flash. Là, c'est comme si le diamant il a duré pendant quelques secondes.
Exactement.
C'est vraiment impressionnant. Mais c'est ça, c'est que là, on voit l'éclipse, mais on ne voit pas l'ambiance, l'espèce de nuage. Moi, je dirais une ambiance de fin du monde. Là. C'est vraiment... C'est presque épeurant, alors qu'on sait ce qui se passe. Je me dis, pour les peuples qui ne savaient pas ce qui se passait, ça devait être tout un spectacle traumatisant. T'sais.
Absolument. Justement, excusez-moi, j'ai vraiment un chat dans la gorge ce soir, mais je fais des chroniques à la radio le jeudi matin, puis la semaine dernière et puis cette semaine, je parle justement des interprétations des éclipses à travers l'histoire. La semaine dernière, j'ai fait pendant l'Empire chinois, et puis c'était l'autre, je m'en souviens plus malheureusement, c'était-tu les Mayas ou quelque chose comme ça, mais c'était vraiment une croyance... Il y avait plusieurs peuples que la croyance était que la lune allait croquer le soleil, là, qu'elle allait manger le soleil. C'est un combat entre les deux astres. Là.
C'est ça. Mais c'est un peu ce qu'on voit. On a l'impression que dans l'heure qui précède l'éclipse, on voit tranquillement le soleil croquer, la lune croquer tranquillement le soleil. On comprend pourquoi il y avait cette interprétation-là, parce que c'est l'impression qu'on a nous aussi. Là,
absolument. Et puis là, je veux vous présenter, pendant qu'on parle, un peu comme on a fait avec avec le site de la NASA, la fameuse éclipse de 1963 dans la région de Shawinigan, Grand-Mère, etc. Alors, vous allez voir que un film qui a été produit par l'ONF, excusez-moi. Et puis, c'est un peu la même chose. Là, on est 60 ans plus tard, quasiment jour pour jour, 61 ans plus tard. Et puis, c'est les gens d'il y a 60 ans, regardez la dame avec son appareil photo, sûrement qu'elle a mis une espèce de...
elle a endommagé son appareil.
Oui, exactement. Mais il y a beaucoup de gens, Claude, qui ont fait ça. Hein, un appareil photo avec une espèce de pellicule de lunettes d'éclipse. Puis ça a l'air que ça faisait quand même ça faisait la job. Là.
Absolument. Sauf qu'en même temps, on a des images de bien meilleure qualité prises par des professionnels. Fait que c'est un peu dommage d'avoir perdu son temps à photographier l'éclipse, alors qu'il y en a qui vont faire beaucoup mieux. C'est pour ça que j'avais dit aux gens d'avance, profiter du moment présent, parce que là, mais tu sais, en même temps, là, on regarde ça, moi, je suis un peu émerveillé, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu, dans le sens que c'est un peu comme regarder des feux d'artifice à la télévision.
Exact, oui, c'est
ça. Puis regarder des vrais feux d'artifice en vrai. Quand vous êtes sur place, puis vous voyez le feu d'artifice, c'est beau à la télévision, là, mais ça n'a pas de comparaison avec quand on est sur place, puis on voit, fait que c'est un peu ça, fait que c'est joli à voir. Quand on l'a vu une fois, comme moi, ben là, ça rappelle des souvenirs, mais c'est comme regarder, on a vu des feux d'artifice, on les regarde ensuite à la télévision. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité.
Absolument. Alors, c'était l'éclipse de grand-mère en 1963.
un autre détail qu'on peut expliquer, qu'on peut aborder, c'est que chaque fois qu'il y a des éclipses, la grande question que tout le monde se pose, c'est la météo. C'est pas juste vrai au Québec, c'est vrai partout à travers le monde.
Ah, absolument.
On se demande toujours quel temps va faire. Et moi, depuis 50 ans qui lis des articles qui parlent d'éclipses un peu partout à travers le monde, je dirais que la majorité du temps, les deux tiers du temps, le temps n'est pas favorable. Tu lis les articles le lendemain, ben, on a raté l'éclipse, c'était nuageux, c'était situé comme
déception.
Au Texas. Au Texas, ça devait être les meilleures conditions. Ben, ils ont vu, mais à peine une misère. Fait que, tout ça pour dire que peu importe où on va sur Terre, la majorité du temps, la météo ne collabore pas. Et c'est pour ça que si vous vous déplacez pour aller voir une éclipse, ben, vous prenez un grand risque. D'ailleurs, il y a des... certain nombre de Québécois qui se sont rendus au Texas parce qu'ils se disaient il y a 70% de chances
ben
de
oui,
mort.
Ben oui, j'ai entendu ça.
Mais en réalité, eux ont, sont allés vers le mauvais temps. Et ceux qui sont restés ici, mes amis astrologues sont restés, astronomes qui sont restés ici, ben, ils étaient contents parce que nous avons eu de bonnes conditions.
Mais il y a des gens qui ont fait demi-tour, hein, qui étaient en route vers le Texas, puis finalement, ils ont viré de bord, puis au Québec, il va faire beau, on revient au Québec.
Exactement, c'est ça.
C'est tellement un vol qui connaît ça, c'est tellement de... Comment je dirais ça? Pas de l'argent gaspillé, mais...
Ah oui. Fait que ça, c'est toujours la grande question partout à travers le monde. Quel temps va-t-il faire? Comme là, tu sais, je parlais, il y a une éclipse en 2026 en Espagne et au Portugal. Bon, c'est la Méditerranée. Normalement, il fait assez beau dans cette région-là. Fait que les chances sont probablement bonnes, mais il se peut très bien que cette journée-là, la météo ne collabore pas. En tout cas, je n'ai pas fait de calcul précis, mais à l'œil, je dirais que les deux tiers des articles que j'ai lus le lendemain d'une éclipse depuis 50 ans, bien, les gens ne l'ont pas vu parce qu'il a fait mal.
Un peu comme je vous l'ai dit tantôt, à Niagara Falls, c'est ce qui est arrivé. Il y avait plein de gens qui sont présentés à Niagara Falls. On voulait voir l'éclipse et les chutes. Puis finalement, il a fait nuageux toute la journée. Puis personne n'a vu l'éclipse. Ça devait être une déception pour ces gens-là.
Absolument.
On attendait 1 million de personnes. Finalement, il n'y a pas eu ça. Mais la ville de Niagara a déclaré l'état d'urgence parce qu'on attendait, selon les autorités, 1 million de visiteurs pour l'éclipse. C'est un peu démesuré. On s'entend 1 million. Là.
Mais ça, là, quand les médias disent ça, je ne sais pas sur quoi ils se reposent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous, on appelle ça ici Québec 84. Il y avait eu les célébrations, je pense, du 300e, 400e anniversaire de la Fondation de Québec. Puis là, ils disaient que la ville de Québec serait envahie de touristes. On ne pourrait pas se stationner à moins de 200 km de Québec tellement il y aurait de monde. Puis finalement, ils ont tellement dit ça qu'ils ont tellement fait peur aux gens que les gens ne sont pas allés à Québec.
Ouais, c'est ça.
Ça a été comme un flop parce que il y a des gens qui sont allés à Québec, mais quand tu te fais dire qu'il y a 1 million de personnes qui vont y aller puis que la seule place où tu vas être stationné, c'est à Trois-Rivières parce qu'après ça, il n'y aurait plus de place, bien, tu n'y vas pas. Fait que les médias, ils lancent des chiffres comme ça. Je ne sais pas sur quoi ils se basaient.
Puis, 1 million, c'est complètement fou d'avoir ça.
Ben, c'était peut-être aussi justement pour créer un happening pour dire, regardez, il va y avoir 1 million de personnes, il faut que tu sois là, il faut pas que tu le manques.
C'est ça. Mais tu vois, comme par exemple, moi, là, j'aurais pu voir l'éclipse de chez moi. On pouvait aller sur les îles de Terre des Hommes, là, qui sont dans le milieu du Saint-Laurent, et je peux aller un peu plus loin. Sur les îles de Terre des Hommes, il y avait beaucoup de gens qui sont allés, parce que c'est juste au sud de Montréal. Moi, j'aurais pas aimé ça me retrouver dans une foule où il y a, mettons, 100 000 personnes, par exemple. Mm-hmm. Moi, où j'étais, là, on était peut-être 200-300 personnes, mais sur un assez grand champ, il y avait des gens autour de moi, mais on n'était pas cordés, là, on n'était pas tassés comme des... Fait que c'était comme agréable. C'est le fun d'avoir des gens autour de soi, mais pas d'être tassés comme des sardines. Et j'ai l'impression que si j'avais été sur les îles de Terre des Hommes, ça aurait été le cas. Puis, trop ce qu'on me passait.
Ça peut déconcentrer aussi le bruit. Tu n'es peut-être pas autant en immersion que si c'est plus justement tranquille. Moi, je l'ai regardé seul avec ma fille de 8 ans dans ma cour, tranquille. Mm-hmm. On entendait les voisins au loin qui faisaient la même chose. C'était parfait. Là.
Ben oui, c'est ça, c'est cute.
On devrait aller faire notre 300e sur l'île Terre des Hommes, Joe.
Ouais, ça serait vraiment cool.
Un jour, ça peut-être. Ben oui, c'est ça, faire un podcast directement sur l'île. Ouais, c'est ça, sur l'île Sainte-Hélène, ça,
Terre des Hommes. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je vais vous dire, moi, je suis allé à l'Expo 67 quelques fois. Ensuite, je suis allé parce que dans les années suivantes, ça continuait l'Expo. Et c'était un site absolument extraordinaire parce que c'était comme une espèce de ville de l'an 2000 avec toutes sortes de bâtiments aux formes aussi diverses les unes que les autres. C'était féerique comme endroit.
L'habitation 67?
L'habitat 67, ça existe encore. Tu sais.
L'habitat 67,
les pavillons qu'il y avait... Moi, ça a été mon adolescence. J'ai passé mon adolescence sur Terre des Hommes dans les années 70. Ouais. Aujourd'hui, quand j'y vais, je pleure. Je pleure. Ouais. Il ne reste plus rien.
Ouais. Le pavillon de la France, je pense qu'il est devenu le casino de Montréal, quelque chose comme ça.
Exactement, c'est à peu près le seul qui a survécu. Ben, la biosphère, le pavillon des États-Unis. Tu sais. Mais par rapport à ce que moi j'ai vu, si vous allez voir des images de l'Expo 67 sur YouTube, vous allez voir plein de pavillons de formes aussi différentes que les autres.
Il y avait de la vie, hein?
Ça a été extraordinaire. Moi, là, c'est mon adolescence que j'ai passée dans les années 70. Et quand j'y vais, je trouve ça tellement triste qu'on ait tout démoli. Ben, évidemment, les pavillons avaient été conçus juste pour l'Expo, juste pour l'été 67. Ils n'étaient pas conçus pour résister à l'hiver canadien. Ils ont résisté à peu près une dizaine d'années. Mais ce qui est très dommage, hein? C'est qu'en 1975, il y a eu une grève des employés de la ville de Montréal. Et cette année-là, l'expo n'a pas ouvert et les pavillons n'ont pas été entretenus. Okay. Ce qui fait que l'année suivante, il restait ben là, il fallait qu'ils démolissent parce qu'ils n'avaient pas passé à travers l'hiver.
Ouais, c'est ça.
À cause d'une grève des employés de la ville de Montréal en 1975, tout a fini abruptement, ah. Alors qu'on aurait pu peut-être conserver ça. Moi, mon fantasme, mon rêve, ce serait de reconstruire le site tel qu'il était et d'en faire une espèce de musée à ciel ouvert. C'était absolument fantastique comme environnement. Puis en même temps, chaque pavillon est un musée. Fait que t'avais des musées de différents pays, t'avais des musées thématiques, t'avais toutes sortes d'affaires. C'était un endroit féerique qui, malheureusement, n'existe plus.
Je pense, Claude, qu'on a trouvé notre prochain sujet pour...
C'est vrai ce que je m'en allais dire. On vient de trouver un sujet mais qui ne sera pas de l'espace, mais qui va être tout aussi intéressant.
Parce que l'Expo, on n'en a pas parlé du tout en presque 300 épisodes. L'Expo
à part le nom du podcast, c'est la seule chose qu'on a
dit. C'est ça.
En fait, quand je suis allé la première fois en 67, j'avais 10 ans. Okay. J'ai un souvenir un peu d'enfant. Puis j'ai un souvenir surtout de... C'était full de monde. C'était pas vraiment intéressant. Les années suivantes, ben là, il y avait beaucoup moins de monde. C'était pas aussi grandiose. Là. Mais je veux dire, c'était beaucoup plus intéressant à aller visiter parce que le moment de l'Expo 67... Écoutez, hein, juste une statistique. Je pense, on peut retrouver des chiffres, là. Je pense que quand ils ont conçu l'Expo 67, ils attendaient 5 millions de personnes. Il y en est venu 50.
Wow.
50 millions.
Ouais, c'est ça. Alors qu'il attendait à peu près 5 ou peut-être 10 millions, là, je ne sais pas trop. Là,
on appelle ça une belle réussite. Hein?
Ah, absolument. Écoutez, j'imagine comme vous êtes des historiens, là, ça a changé l'histoire du Québec. Il y a Québec d'avant l'Expo 67, puis il y a le Québec d'après l'Expo 67.
Ça l'a fait entrer dans la modernité. C'est comme un peu la conclusion de la Révolution tranquille. C'est le nouveau, le renouveau de tout. Ouais,
mais c'est un peu en préparation de l'Expo 67 qu'on a construit les grands axes autoroutiers, etc.
Le
métro. C'est grâce à l'Expo. Puis en même temps, l'Expo, là, c'est pas... C'est, l'Expo universelle, ça se promenait partout ben, dans le monde, là, mais je ne sais pas s'il y a une autre exposition universelle qui a autant marqué que celle de Montréal en 1967.
Je dirais celle de Paris de 1800, je pense que c'est 96, quand ils ont inauguré la Tour Eiffel.
Ouais.
C'est peut-être la seule qui me vient en tête.
Mais dans les expositions modernes, ils disent que c'est c'est la plus grande réussite en termes de visite puis de qualité, etc. Ouais. Ne serait-ce... Écoutez... Ouais, là, on change du sujet.
Aucun problème, on est parti là-dessus au niveau.
Veux-tu qu'on continue ou qu'on change de
conversation? Non, vas-y, mon cher, parce que c'est trop intéressant.
T'sais, quand on y pense, là, il y avait une petite île au centre du Saint-Laurent qui était l'île Sainte-Hélène. On l'a multipliée par peut-être 5 fois. On a construit l'île Notre-Dame.
Ouais.
OK? On a construit 2 îles en plein milieu du Saint-Laurent.
Avec la roche du métro qu'on blastait à côté.
C'est ça, exactement. Et si vous allez sur l'île Notre-Dame, il y a des canaux un peu comme à Venise. Hein? Mais les canaux, c'est parce qu'on a manqué de matière, on a manqué de roche, fait qu'on s'est dit, OK, on peut pas tout remplir, on va faire des canaux.
Ça va être beau.
Voyons donc.
Mais tout ça, ça a été fait en 3 ans, c'est-à-dire qu'il a fallu construire des îles. Et après ça, c'est une véritable ville qu'il y avait là. Il y avait, je sais pas moi, 150 bâtiments, ça veut dire l'électricité, l'aqueduc, tout, les chemins, on a construit littéralement une ville en plein milieu du Saint-Laurent en commençant par construire des îles et ensuite construire dessus. Et le tout, ça a été fait en 3 ans et demi. Écoutez, aujourd'hui, là,
on a de la misère à faire un pont.
On a de la misère. On veut rénover une rue et ça nous prend 5 ans. T'sais. Puis là, on a construit ça en 3 ans et demi, en même temps qu'on a construit le métro.
C'est l'époque des grands projets, l'époque des barrages hydroélectriques. C'est justement le Québec, l'âge d'or du Québec que j'aime dire. Ouais.
Ben, ce qui est un peu dommage, là, je veux pas comment je dirais ça, je comprends pourquoi ça existe, là, mais aujourd'hui, on serait incapable de faire un projet comme ça parce qu'il faudrait avoir des consultations, des études d'impact environnemental, etc. Ça prendrait probablement 50 ans à construire une affaire de même.
Parce qu'il y aurait des milliards.
Ah oui, c'est ça, mais il y aurait tellement trop de... Tout serait long, tout serait complexe, c'est ça. Alors qu'à l'époque, c'était, ben écoutez, on va construire des îles au centre du Saint-Laurent, puis ce ne sera pas la fin du monde. Puis sur ces îles-là, on va... Alors qu'aujourd'hui, on dirait, oui, mais tout d'un coup, les îles ne tiennent pas le coup, etc. C'est amusant de penser que 60 ans plus tard, les îles sont toujours là.
Il y a le circuit Gilles Villeneuve, il y a le casino.
C'est ça. Mais il n'y a tellement plus rien par rapport à ce que c'était. Là. Ça me fait... Moi, je trouve ça tellement triste.
Oui, surtout pour toi, qui l'a vécu. T'sais, nous, t'sais, moi, j'éprouve de la tristesse, puis j'étais pas là. Je suis né 22 ans plus tard, moi. Fait que, c'est comme... Mais ça doit être dur, justement, pour les gens qui l'ont vécu, en effet. Ouais.
Ben, t'sais, c'est un peu comme... J'imagine dans votre coin, il y a des super beaux endroits, puis dans mon coin, il y a des super beaux endroits.
Comme la fonderie à Rouen, c'est beau, ça.
sais, c'est ça. Puis s'imagine qu'on détruisait tout ça. Puis là, tu sais, tu dis, non, c'était beau, c'était fantastique, tu sais. Puis malheureusement, ça s'est terminé abruptement en 1975 à cause d'une grève. J'en pleure encore.
J'en pleure.
C'est dommage. Hein?
Mais sérieusement, Claude, là, il faut vraiment faire un épisode là-dessus, puis pas dans un an. À la fin de l'épisode de ce soir, je vais le noter. On va se trouver une date avant l'été, puis d'ici un mois, il faut s'en parler de l'expo. C'est vraiment trop intéressant.
En fait, juste ajouter de dire, on parlera de l'expo 67, mais des années qui ont suivi, parce qu'on parle comme si ça s'est terminé en 67. Non, ça a continué les autres années.
Oui, les Jeux olympiques aussi qui s'en venaient.
Oui, c'est ça. Puis, juste vous dire, pour eux, en 1971, il y avait un immense pavillon sur l'exploration spatiale que j'ai visité 100 fois dans cet été-là.
Ah oui.
Et depuis ce temps-là, j'ai visité beaucoup de musées à travers le monde. Puis je me dis, il y avait du bon stock dans ce pavillon-là. C'était d'une qualité extraordinaire. D'ailleurs, j'ai jamais su qui était le responsable de ce pavillon-là, mais il avait fait un travail extraordinaire. Il y avait des exhibits que je n'ai pas vus nulle part ailleurs. Il y avait une qualité d'exhibits que j'ai rarement retrouvé ailleurs. Juste pour vous dire à quel point c'était quelque chose d'impressionnant.
Ben, tu vois, ça, c'est des témoignages, des choses qu'on... Mettons qu'on enseigne l'Expo 67 en histoire de secondaire 4, mais de l'entendre de quelqu'un qui l'a vécu, c'est encore plus impressionnant.
Ça sert à ça, les dinosaures, hein?
C'est ça. Un jour, nous le serons, nous aussi.
On va pouvoir enseigner l'éclipse, là, on va l'avoir vécu cette fois-ci.
Ouais, c'est ça.
Rappelez-vous de l'éclipse de 2024. C'est moi, ça. J'étais là.
Oui, papy!
Moi, c'est ça, l'éclipse, la COVID. On était le 11 septembre, on était là. En parlant du 11 septembre, j'ai l'air d'un dinosaure quand j'en parle à mes élèves du 11 septembre, parce qu'eux autres, ils n'étaient pas nés, ils sont nés 10 ans plus tard. Là. Puis, quand je leur parle de ça, j'ai l'air d'Abraham Simpson en dessous de l'arbre qui leur raconte le bon vieux temps.
Ouais. Ben, moi, là, quand je m'entretiens avec des jeunes comme vous, là, ben, vous n'étiez pas là en Apollo 11.
Moi, c'est ça.
Non, effectivement.
Alors que moi, c'était un des événements fondateurs de ma vie. Tu sais, fait, je me dis, oui, c'est comme ça. Mm. Hey, mais juste à penser, là, nous sommes en 2024.
Ouais.
Ça veut dire que quelqu'un qui est né en l'an 2000, il a maintenant 24 ans, c'est un adulte. Ça fait longtemps qu'il a le droit de voter. Ouais. Il est peut-être en train
de siècle,
d'avoir des enfants. Ces gens-là sont nés à l'an 2000, alors que pour moi, l'an 2000, c'était avant-hier qu'on espérait un jour arriver en l'an 2000. Ben là, à cette heure, je rencontre des jeunes filles et des jeunes hommes dans la rue. Ben, ils étaient pas nés en l'an 2000 et sont rendus maintenant des adultes.
Puis on va se le dire, depuis l'an 2000, dans les 24-25 dernières années, il n'y a pas des grandes choses incroyables qui se sont passées, même, j'allais dire, au Québec, mais dans le monde, tu sais, ça part, tu sais, le 21e siècle part avec le 11 septembre.
Je suis pas d'accord avec toi.
Ben,
pense juste aux réseaux sociaux.
Ouais, mais en même temps, c'est voit les dommages.
Pense juste à ce qu'on est en train de faire actuellement, là.
Ouais, ça, c'est...
Ça n'existait pas il y a 15 ans, les réseaux sociaux, ben, techniquement, ils existaient, là, mais je veux dire, il y a 15 ans, Facebook, personne n'est abonné sur Facebook, ou à peu près personne. Tous les réseaux sociaux n'existaient pas. Le téléphone cellulaire que vous avez maintenant, ça n'existait pas. Tu sais, iPhone version 1, là, de sorti peut-être en 2002-2003. Il n'y a rien à voir avec vos téléphones.
En 2000, le premier iPhone en 2007, ouais. Je crois. Ouais,
OK,
iPhone
mais tu sais, si on avait un iPhone 1 là, par rapport à celui d'aujourd'hui, là,
c'est une roche.
C'est ça. C'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement des grands événements comme justement l'homme sur la Lune ou l'Expo 66.
Non, mais c'est ça.
Mais on vit dans une société absolument fascinante aujourd'hui. Par rapport à ce que c'était à l'époque.
Mais des technologies, tu sais, on s'entend, comme on a dit avant de commencer l'enregistrement, la pandémie a amené quelque chose de bon.
Ouais.
C'est le fait de pouvoir communiquer comme ça à distance. On le faisait avant la pandémie, mais avec autant de facilité de streamer.
Ça a été normalisé aussi, je pense.
C'est normalisé. Joe, tu sais, je le considère comme un de mes très bons amis aujourd'hui, puis on s'est vu peut-être une dizaine de fois. Mais ça permet de une communication à distance de qualité, ce qu'on n'avait pas avant. Puis mais en même temps, de streamer facilement, tu sais, pour des
mais
gens.
Mais pense aussi à YouTube. C'est extraordinaire, YouTube.
Ben oui.
On a, au bout de nos doigts, tout ce qu'on veut comme information. On veut dire n'importe quelle vidéo, que ce soit sur l'actualité, que ce soit sur la science. Évidemment, il y a beaucoup de niaiseries aussi, là. Ouais. Mais je veux dire, c'est extraordinaire, YouTube. C'est, bon, moi, là, écoute, je tombe sur des documentaires absolument fascinants sur à peu près tous les sujets. Puis même, à un moment donné, c'est drôle parce que je tombais sur une vidéo, une véritable vidéo russe où j'entendais Yuri Gagarin parler.
Ah oui.
Je ne l'ai jamais entendu, mais je n'ai pas compris ce qu'il disait, il parle en russe.
Oui, c'est ça.
Mais je veux dire, c'est quand même fascinant de dire, OK, c'est... puis il y a une petite voix un peu nasillarde. Tu dis, oh bon, aïe, aïe.
C'est pas l'image que tu te faisais de
ça
Yuri Gagarin.
Ça, c'est ça.
Ah non, c'est ça. T'sais. Ah non, moi, je trouve YouTube absolument extraordinaire. L'autre aspect que je trouve extraordinaire de notre société, c'est qu'aujourd'hui, on a le choix d'à peu près tout.
Ouais.
On peut passer ses soirées à perdre son temps à regarder des vidéos stupides, ou au contraire, on peut aller regarder des films extraordinaires, on peut regarder des documentaires extraordinaires.
Des épisodes de Sur la Terre des Hommes.
Écoute, moi, là, tous les matins, je vais lire 5, 6, 7 journaux du monde. Ben, pas seulement les livres, mais les parcours, dont le site de la Chine, China Daily, l'agence TASS pour savoir ce qui s'est passé en Russie. Mm. Évidemment, le New York Times, le Wall Street Journal, la presse, sont tous à portée de ma main. J'avais pas ça avant, là, tu sais. Alors, c'est extraordinaire.
Absolument. Absolument. Claude, je voulais te présenter, parce que je l'ai partagé tout à l'heure, mais je reviens à l'éclipse.
Oui, non.
C'est cette image-là. Et puis, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu comment ça fonctionne, un éclipse. On sait que c'est la Lune qui passe entre la Terre et le Soleil, mais comment ça se fait que des éclipses, il n'y en a pas à tous les mois? Parce qu'on s'entend qu'une éclipse, dans le fond, c'est à chaque début de nouvelle lune, c'est ça?
Non, pas nécessairement. Ben, c'est-à-dire c'est toujours au moment de la nouvelle lune.
OK. Okay?
Mais c'est n'importe quand dans l'année. C'est à peu près une éclipse totale, c'est à peu près une fois par année.
OK.
OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la trajectoire de la Lune, OK, fait un angle par rapport à l'équateur du Soleil.
Okay.
D'un angle de 5 degrés. S'il n'y avait pas cet angle-là, si l'angle et l'orbite de la Lune par rapport à l'équateur du Soleil, qu'on appelle l'écliptique, on aurait des éclipses tous les mois. À chaque mois, la Lune passerait devant le Soleil. Mm-hmm. Sauf qu'à cause de ce 5 degrés d'inclinaison, il arrive souvent que la Lune passe au-dessus du Soleil ou en dessous du Soleil. Autrement dit, à chaque mois, au moment de la nouvelle Lune, donc quand on ne voit pas la Lune, c'est parce que la Lune passe vis-à-vis, dans les parages du Soleil. Mm-hmm. Généralement, elle passe au-dessus ou en dessous, et à peu près une fois par année, elle passe vis-à-vis du Soleil.
Okay.
Il y a parfois, souvent, elle passe carrément au-dessus du Soleil, ou en dessous, ni vu ni connu, puis parfois, elle gruge une partie du Soleil. Elle va l'éclipser en partie. C'est ce qu'on appelle une éclipse partielle. Mm-hmm. Ça arrive à peu près une fois. Non, une éclipse totale, ça arrive à peu près une fois par deux ans. Puis une éclipse partielle, ça arrive à peu près une fois par année. Puis parfois aussi, elle va passer autrement. Puis, fait que des éclipses totales, il y en a à peu près une à tous les deux ans.
Okay.
Mais comme la surface terrestre est couverte aux deux tiers d'eau, bien, les deux tiers des éclipses sont visibles que depuis l'océan. Il faut être quelque part dans le Pacifique.
On ne s'en rend jamais compte des éclipses. C'est pour ça que c'est tout extraordinaire quand il est là au-dessus d'un continent. Là.
C'est ça. Fait que de temps en temps, être au-dessus d'un continent, là, c'est plus facile d'accès. T'sais. Fait que c'est juste le fait qu'il y a une différence de 5 degrés dans la trajectoire de la Lune par rapport au Soleil qui fait qu'autrement, on aurait des éclipses tous les mois.
Puis ça serait moins. Là, c'est vrai que ça serait moins impressionnant.
Exactement, ça serait impressionnant. Mais en même temps, c'est assez impressionnant. J'ai l'impression qu'on y prêterait moins attention, évidemment, là, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment que l'alignement soit parfait. Puis ça arrive à peu près une fois par deux ans.
Okay.
Parce que, par exemple, pour donner une idée, je pense qu'au cours des années 2020, il y a 5 éclipses totales quelque part sur Terre. On a eu une des 5 le 8 avril. Donc, c'est pour te dire qu'il y en a à peu près une tous les deux ans.
Alors, c'est pour ça que les probabilités qu'une éclipse, dans le fond, éclipse le même territoire au même endroit, c'est pour ça qu'on dit que c'est en 2106 à cause que c'est très, très, très rare. Là.
C'est ça. Puis la fois précédente, on parle de la région de Montréal, là, c'était en 1936, si ma mémoire est bonne. C'est pour ça que mon balado, je l'ai intitulé « L'expérience d'une vie », parce que j'ai vécu cette expérience-là. Je ne pense pas la revivre à moins de me déplacer, mais c'est peu probable.
T'sais. Et celui-ci, l'épisode 293 qu'on fait en ce moment, c'est l'éclipse du siècle, parce que justement, la prochaine, on va être 6 pieds sous terre.
C'est ça, exactement. On n'était pas là lors de la première, même moi, j'étais pas là. Puis on ne sera pas là lors de la prochaine.
Absolument. Une autre question, Claude, que je voulais te poser. Là, on parle de la Terre, hein, les éclipses, tout ça. Mais dans ton dernier balado de voyage dans l'espace, tu parlais aussi d'éclipses sur d'autres planètes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment ça fonctionne, les éclipses qui ont bien sûr des satellites naturels comme nous avec la Lune? Là? On s'entend que il y a plusieurs planètes qui ont plusieurs satellites. Est-ce que ça fait des éclipses comme nous? Est-ce que ça fait des zones d'ombre aussi, aussi imposantes ou c'est, okay. c'est très différent?
Deux informations. La première, c'est qu'on est extraordinairement chanceux. On a une coïncidence extraordinaire. Le diamètre de la Lune est 400 fois plus petit que le diamètre du Soleil.
Okay.
Mais la Lune est 400 fois plus proche de nous que le Soleil. Et j'insiste sur les deux chiffres. 400 fois plus petit, puis 400 fois plus proche. Ce qui fait que le disque de la Lune recouvre parfaitement celui du Soleil.
Fait que c'est une équation, Lune, une équation Lune, parfaite.
Un rapport de perspective parfait. Ouais.
Parfait. La Lune pourrait être plus petite, puis elle ne cacherait pas tout le Soleil. Ou elle pourrait être plus grosse, puis elle cacherait plus que le Soleil. La coïncidence est extraordinaire. Et cette coïncidence-là, on la retrouve nulle part dans l'univers, dans notre système solaire, possiblement nulle part dans l'univers. Si maintenant on parle des autres planètes, comme une éclipse, c'est le fait qu'une lune passe devant le Soleil, il faut avoir une lune. Si on était sur Mercure ou sur Vénus, il n'y a pas de lune. Ils n'ont pas de satellite naturel. Donc, si vous étiez sur Vénus, par exemple, vous n'auriez pas d'éclipse, ça prend une lune.
Ouais, puis Mercure, on s'entend qu'eux autres, pour faire une éclipse solaire totale, ça prendrait un méchant gros satellite. Parce que
ben oui, exactement. Ça prendrait probablement un autre Mercure.
Ouais, c'est
si
ça.
On va sur Mars, ils ont deux lunes. Ah, oh, wow! Mais les lunes ont quelques dizaines de kilomètres de diamètre.
OK, c'est des roches. Là.
Et c'est ça, c'est un gros caillou. Et ça ne cache pas totalement le Soleil. Mais même si ça cachait totalement le Soleil commence à être pas mal loin. Là. Le phénomène ne serait pas aussi spectaculaire que sur Terre. Si on va encore un peu plus loin, Jupiter, ben, il y a une centaine de lunes, il y en a en masse. Mais en même temps, là, il y a possiblement des éclipses, sauf que le Soleil est tellement loin que ça doit être presque à peine perceptible. Il n'y a pas un immense cône d'ombre d'à peu près 200 km de diamètre qui se promène à la surface. Donc, à ce moment-là, je veux dire, vous n'avez pas vraiment des éclipses. Puis, plus vous éloignez du Soleil, plus le Soleil est moins apparent, plus son diamètre est moins apparent, puis sa luminosité, bien, vous perdez beaucoup d'intérêt. Fait, ça se peut que sur Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, vous pouvez, dans certains cas, être en position d'avoir des éclipses puisqu'il y a des dizaines de lunes, sauf que vous êtes tellement loin du Soleil que vous n'aurez pas un spectacle aussi extraordinaire que sur Terre. Fait que c'est comme si on est à peu près à la bonne distance et on a une chance d'avoir une Lune qui est exactement le même diamètre que le Soleil. Et ça, c'est strictement une coïncidence. Et on ne pense pas qu'on va retrouver cette coïncidence-là ailleurs dans notre galaxie. En fait, il y a des milliards d'étoiles, c'est possible quelque part, là, mais c'est une coïncidence vraiment remarquable que le diamètre de la Lune soit 400 fois plus petit, mais que la Lune soit 4 fois plus proche. Ouais. Et il faut savoir que la Lune s'éloigne tranquillement, pas vite de la Terre, à raison de quelques centimètres par année. Éventuellement, la Lune ne cachera plus le Soleil. Mais là, on parle en termes de millions d'années. Okay. C'est pas notre vivant. À un moment donné, la Lune va être suffisamment loin pour ne plus éclipser totalement le Soleil.
Et puis, il y a quelques millions d'années, si on retourne dans le passé, est-ce que la Lune, justement, si on prend cette logique-là, est-ce qu'elle était plus proche de la Terre?
Oui.
Donc, les éclipses étaient vraiment là, complètement totales et duraient plus longues?
Je ne sais pas si c'était plus longue, mais ils cachaient parfaitement. Fait qu'on ne voyait pas la couronne autour du Soleil, on ne voyait pas l'anneau lumineux qu'on voyait.
Exactement.
Et il faut dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'humains sur Terre.
Oui, c'est ça.
Les humains n'existaient pas. Là,
mais les dinosaures devaient capoter.
Ben, c'est ça, il faudrait retourner aux dinosaures.
Ouais, c'est ça.
Ça, les dinosaures, c'est mes grands-parents.
Incroyable.
Non, je fais allusion à un moment donné, il y a une amie qui vient me voir, elle dit « Claude, c'est quand est-ce les dinosaures? » Ben, tu sais, il y a 66 millions d'années, ils ont été éteints. Fait que, ouais. Ben, tu sais, parce que ma petite fille m'a demandé « Grand-maman, y avait-tu des dinosaures quand tu étais petite? » Ben, j'ai dit « Ça dépend quel âge tu as, là. »
Ouais, c'est ça. 66 millions d'années. C'est ça. Il y a un commentaire, je l'affiche, de Pierre-Luc Bourgeois. Et puis, ça vient un peu avec qu'est-ce que tu as publié, Joe, en fin de journée, qui dit « Avez-vous vu Trust My Science ont publié des résultats de recherche Google mal aux yeux? » Alors, les requêtes suivent la trajectoire de la visibilité de l'éclipse. Doit-on s'y fier? Oui, parce que la journée du 8 avril, une des recherches les plus populaires sur Google, pendant la journée, c'était « Pourquoi j'ai mal aux yeux ». Et puis, Joe, qu'est-ce que tu as publié en fin de journée sur la page de Joe le prof concernant ça, pour le Québec, du moins?
Ben, pour le Québec, il y a un article qui est sorti, je pense que c'est dans la presse, si je ne me trompe pas, comme quoi il y avait eu environ là, 27 ou 28 personnes qui ont consulté dans les jours suivant l'éclipse pour des brûlures aux yeux, à avoir trop regardé le soleil durant l'éclipse. Donc, comme on disait d'entrée de jeu, c'est quand même, sur une population de 8 millions, c'est quand même une bonne moyenne, mais c'est quand même 28 personnes qui se sont dit « Les règles ne s'appliquent pas à moi, puis regardez, je suis capable de le faire quand même. »
Oui, mais les yeux ne sont pas comme les vôtres. Maintenant. Ouais, c'est ça. Alors, voici cet article.
Deux choses à ajouter là-dessus. Normalement, on n'est pas capable de regarder le soleil quand il est dans le ciel. Il est trop lumineux. On peut regarder le ciel au lever et au coucher du soleil. On regarde des levers de soleil et des couchers parce que là, l'atmosphère filtre suffisamment. Fait qu'en temps normal, on ne peut pas le regarder, le soleil, il est trop aveuglant. Exact. Évidemment, au moment de l'éclipse, quand il est caché à 90-95%, là, on peut le regarder. Mais c'est aussi dangereux. J'imagine qu'on a tous fait de l'expérience enfant. Vous prenez une loupe, vous concentrez les rayons du soleil sur votre peau. Et vous voyez qu'en l'espace d'à peu près 2-3 secondes, la peau commence à chauffer et à brûler. Faites la même expérience avec une loupe, concentrez ça sur une feuille de papier, la feuille de papier va brûler. Fait que c'est exactement ce phénomène-là. Ce qui fait que le soleil, il ne faut jamais, jamais, jamais le regarder directement, sauf au lever et au coucher. Mais en temps normal, on n'est pas capable de regarder parce qu'il est trop intense. Mais au moment de l'éclipse, comme il perd 80, 90, 95 % de son intensité, là, on peut le regarder. C'est pour ça que ça prenait des lunettes. Au moment de la totalité, là, vous enlevez vos lunettes pour le regarder parce que là, il est caché. Puis juste avant que l'éclipse se termine, la totalité se termine, il faut remettre ses lunettes. D'ailleurs, exact. Moi, j'étais avec un groupe d'astronomes, puis à un moment donné, ils ont dit « Bon, ben là, c'est le temps. Tout le monde met ses lunettes. » Et il fallait mettre ses lunettes et non pas dire « Je vais la regarder encore 2, 3, 4 secondes. » Parce que là, c'est comme quand vous concentrez les rayons du soleil sur votre peau. Ben, quelques secondes, la peau brûle, la peau chaude. Je pense que dans les 27 personnes, il y a probablement des gens qui ont légèrement abîmé leurs yeux. Ça peut se rétablir, comme je me suis déjà fait chauffer un petit peu la peau avec une loupe. Ben, je n'ai pas eu une brûlure. Mais il n'aurait pas fallu que je tienne ma loupe pendant une minute de temps, par exemple, parce que là, j'ai eu une vraie brûlure. Fait que, probablement que dans les 27, il y a des gens qui ont une légère problème qui va s'effacer dans le temps. Mais il y en a peut-être si on trop abusé.
J'ai de la misère à avoir de la pitié pour ces gens-là, Claude.
Non, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai vu, il y avait au moins un influenceur conspirationniste qui disait « C'est pas vrai, les lunettes, vous n'en avez pas besoin. » J'espère qu'il a regardé intensément l'éclipse et qu'il va faire d'autres vidéos par la suite.
Oui, c'est ça. Avec une canne pour essayer de trouver son ordinateur.
j'ai le goût de, si vous permettez, d'ouvrir une parenthèse. Je fais souvent, moi le faire rapidement, là, je fais souvent un petit jeu avec les gens. Je leur dis, tout le monde a une croyance, la même, toi, chacun de vous deux, là, Jérémy et Jonathan, vous avez une croyance que moi j'ai aussi. Tout le monde a la même croyance. On est convaincu de cette croyance-là. On l'invoque probablement chaque semaine, au moins chaque mois, peut-être même chaque jour. Et à sa face même, cette croyance-là, elle est fausse. Et tantôt, Jonathan l'a dit, la croyance, c'est « Oui, mais moi, c'est pas pareil. » Moi, je peux conduire en état d'ébriété parce que je suis plus habile que les autres. Moi, les règlements ne s'appliquent pas à moi. Ouais. Et cette croyance-là, on est tous convaincus de ça. Là. Moi, je suis convaincu que je ne suis pas pareil comme les autres puis qu'il y a des choses que je peux peut-être me permettre que les autres ne devraient pas. Jérémy, je suis certain que tu as cette croyance-là. Puis Jonathan aussi, je suis certain que tu as cette croyance-là. Tout le monde a cette croyance-là. Sauf qu'en sa face même, si tout le monde se pense spécial, ben, tout le monde est pareil. D'où l'idée de dire, moi, je peux regarder le soleil, moi c'est pas pareil, moi mes yeux ne seront pas abîmés, puis c'est tout ça, ben non, t'es comme les autres. Puis moi, je peux compter un état d'ébriété parce que moi, je suis plus habile que les autres. Moi, je suis pas obligé de faire mes stops. Hein, c'est pas pour les autres.
C'est tellement niaiseux. C'est comme on a dit en début d'épisode, c'est qu'on en parlait même quasiment à RDS là, de l'éclipse. Là. Ben on a tellement répété qu'il fallait les maudites lunettes. Puis là, tu vas le regarder, ben garde, tant pis pour toi, il est rendu là.
C'est ça, exactement. Mais c'est pour te dire que tout le monde, on pense tous que nous, c'est pas pareil. Puis alors que tout le monde passe de même, puis c'est vraiment une croyance qui est répandue chez tout le monde, parce ouais. qu'on se sent tous, puis dire « moi, je suis plus habile que les autres, je suis plus intelligent que les autres, je suis plus fin que les autres. Ouais. » Puis pourtant, ben, si tout le monde croit cette croyance-là, ben, elle est fausse, tu sais, mais effectivement. Fait qu'il y en a qui ont pensé qu'eux autres, à pas pareil, ils pouvaient la regarder. Comme il y en a qui pensent qu'ils peuvent conduire en état d'ébriété, ils n'auront pas d'accident.
C'est ça. C'est le God complexe, hein? On est descendant de Dieu, donc on est tout puissant.
Ouais. C'est ça, exactement, mais chacun sa façon, tu sais.
Toi, Claude, qui est un amoureux justement de l'astronomie, comment tu as trouvé ça que les écoles décident de fermer complètement la journée du 8 avril? Je sais pas si toi, Joe, à Rouen, ça ressemblait à quoi?
On avait une demi-journée pédagogique, fait que j'en ai profité pour prendre congé et aller chercher ma fille pour le regarder avec, justement, mais ils ont peut-être manqué la chance de faire quelque chose de bien intéressant, mais j'ai pu en profiter, fait que je suis pas déçu nécessairement.
Oui, c'est ça. Mais toi, Claude, comment tu as trouvé ça? Est-ce qu'on a manqué le bateau, justement, avec une éclipse qui va se représenter seulement dans un siècle?
Moi, ce que je trouve navrant là-dedans, c'est la déresponsabilisation qu'on fait aux gens. C'est-à-dire, on dit aux gens, ne regardez pas l'éclipse sans lunettes, on donne des lunettes partout. Mais comme on ne peut pas se fier sur la responsabilité des gens, dire si vous ne le faites pas, vous êtes responsable, bien là, on dit on ferme les écoles, on empêche tout ça, tu sais. Au lieu de dire.
On déresponsabilise.
Moi, je comprendrais, par exemple, pour une classe d'enfants de 4, 5, 6, 7 ans, peut-être, tu sais. Mais après ça, c'est comme de dire écoutez, là, on va vous expliquer comment ça marche, à chacun de se responsabiliser. Puis je trouve qu'on voulait un peu déresponsabiliser les gens en disant comme les gens sont irresponsables, ou en tout cas, certains sont irresponsables. On ferme les écoles, on ne veut pas prendre la responsabilité que des fois que certains élèves, entre autres adolescents, trop tâtent pour écouter les consignes, alors qu'on devrait responsabiliser les gens. C'est un peu comme conduire une automobile. On donne des permis de conduire, mais on est chacun responsable. Et imagine une société, on dirait, bien là, on enlève tous les permis de conduire là, parce qu'il y a des gens qui sont irresponsables, puis il va y avoir des accidents d'auto, puis
exactement.
Ça. Non, il faut responsabiliser les gens. Et je trouve, dans le cas des commissions scolaires, je les comprends, parce que probablement que si j'avais été à leur place, j'aurais fait la même chose, parce que s'il y a des élèves qui n'auraient pas suivi les consignes, les parents seraient retournés contre les commissions scolaires.
C'est
ou
clair
les écoles.
Qu'il y a eu des poursuites. Là.
C'est ça, alors que c'est l'enfant qui n'est pas responsable. Tu sais, surtout, je comprends, mettons, peut-être, je ne suis pas spécialisé, mais peut-être moins de 7 ans, là, les 5, 6, 7 ans, peut-être qu'ils ne comprennent pas trop tout ça. Mais j'ai envie de dire, là, dans les écoles secondaires, là, on leur explique comme il faut. Puis si vous êtes trop tâtant pour ne pas prendre des lunettes qu'on vous a données, bien, assumez les responsabilités, un peu comme si tu traverses les rues sans regarder puis tu te fais frapper, bien, c'est ta responsabilité à toi. Et non pas dire c'est la société, c'est le gouvernement, c'est ci, c'est ça. Et j'ajouterais, je vais ouvrir une parenthèse, mais je trouve que dans le domaine de l'écologie puis les changements climatiques, c'est la même affaire. Moi, je suis horrifié quand j'entends dire c'est les gouvernements qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, les gouvernements. Ce n'est pas les gouvernements, c'est chaque individu qui devrait faire sa part, les gouvernements aussi. Mais là, tout le monde dit, non, moi, je ne suis pas responsable, moi, je n'ai rien à faire là-dedans. C'est les gouvernements, c'est les gouvernements à prendre des décisions, pas à faire ce qu'il faut. Non, c'est une responsabilité personnelle. Chacun d'entre nous, on devrait dire, on fait notre part pour diminuer notre empreinte carbone, pour essayer, pour moins consommer. C'est vrai que les gouvernements ont un rôle à jouer, c'est vrai que les municipalités ont un rôle à jouer, mais les individus aussi, mais c'est un peu ce qui est arrivé là, tout le débat scolaire, c'est un peu comme on déresponsabilise les gens au lieu de leur dire on va vous informer comme il faut, là,
mais
ça prend des lunettes.
On dirait que on est tous rendus des enfants, là. Tu sais, on est comme gérés, si on veut. Moi justement, j'ai pas aimé que certaines écoles, tu sais, pour ce qui est de la mienne, de mon école, ça a été ouvert toute la journée. On avait des consignes. On a fait une activité en lien avec l'éclipse pour aller la voir. On n'avait pas des lunettes pour tout le monde, malheureusement, mais on avait un 5 minutes une classe après l'autre pour aller voir l'éclipse. J'ai aimé cette façon-là de gérer, mais de dire, comme tu as si bien expliqué, Claude, on ferme tout parce qu'on ne veut pas se responsabiliser, puis les gens, t'sais, on est tellement rendu individualiste qu'en même temps, je comprends un peu qu'on se fasse gérer de la sorte, là, comme si on était une grande garderie.
C'est parce que les gens se retournent contre les gouvernements. Tu sais, moi, là, j'habite au 10e étage d'un immeuble, j'ai accès à une galerie. Je pourrais sauter en bas de la galerie, là, tu sais, 10e étage. Mais un jour, on pourrait dire, ben là, on empêche les gens d'aller sur la galerie parce qu'il y en a qui vont sauter en bas de la galerie.
C'est ça.
au lieu de dire aux gens, c'est pour ça que je trouve que dans le domaine de l'écologie, de la protection de la planète, on a chacun un rôle à jouer et non pas dire, ah, c'est le gouvernement, les gouvernements ne font pas ce qu'il faut, c'est la faute du gouvernement. Non, non, c'est notre faute individuelle à chacun. Chacun, on consomme, chacun, on surconsomme, chacun, on ne fait pas attention à la planète. On a un rôle à jouer chacun. Mais là, les gens disent, non, non, c'est la faute, c'est les autres, c'est les autres. Ouais. Fait que là, on ferme les écoles parce que sinon, les parents seraient revenus contre certaines écoles si leur tata d'adolescent n'avait pas suivi les consignes. Ouais, mais je veux dire, c'est l'adolescent qui est responsable. Là. Ouais. C'est peut-être le parent aussi, quelque part, qui est responsable de ne pas élever son enfant à dire, quand on donne des consignes importantes, exemple, traverse au feu rouge, bien, si tu ne traverses pas au feu rouge, ce n'est pas la faute du gouvernement qui a mis un feu rouge, c'est la faute de l'enfant qui n'a pas respecté la consigne.
Ça aurait été une très bonne occasion, justement, de responsabiliser la population, de dire, regarde, là, tu es conscient, on en parle depuis 2 semaines, des conséquences que ça peut avoir là, de ne pas regarder une éclipse, de regarder une éclipse sans lunettes, là, bien, regarde. Essaye-toi de voir, juste pour le fun. Juste pour le
c'est
fun.
Ça. Puis là, tu sais, on peut parler d'une chose, là, on est au printemps, la saison des feux de forêt s'en vient. On sait que la majorité des incendies de forêt sont déclenchés par des humains. Hein. Des humains qui disent, ben moi, je peux faire un feu de camp. Je ne sais pas si un feu de forêt. Je peux faire un feu de camp, mais moi, c'est pas pareil. Moi je vais garder le contrôle. Ouais, il n'y arrivera rien. T'sais. Mais il y a combien de si on connaît une saison comme celle de l'an passé, là, combien de feux de forêt vont être allumés par des humains, par des gens? Qui pensaient que eux autres, pas pareil, eux autres, ils savent comment faire un feu et que ça ne se propagera pas. Mais c'est des individus qui, peut-être par inadvertance, peut-être même volontairement, mais par inadvertance, qui vont mettre les feux un peu partout. Ça, là, ça s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
Oui.
Pourquoi pas se responsabiliser, dire je ne fais pas de feu de camp, même si c'est le fun d'en faire un et de faire cuire des guimauves, parce que je risque de créer un incendie. Mais évidemment, chaque personne va dire non, ça ne m'arrivera pas à moi, pas à moi. Moi, c'est pas pareil. Là, non,
mais c'est, je connais trop ça, les feux.
Ben, c'est ça, exactement. Mais ça, là, j'espère qu'on ne vivra pas la saison de l'été passé. Là. Non, je veux dire, on peut penser qu'il va y avoir des dizaines, peut-être des centaines de feux de forêt à cause des humains. Bon, il y a aussi la foudre qui en fait. Bon, ben là, on ne peut pas faire grand-chose. Mais si au moins, c'était juste la foudre. Mais imaginez si cet été, il y a des centaines de feux de forêt qui obligent, par exemple, des communautés à être évacuées. C'est vraiment parce que des humains ont décidé qu'eux autres faisaient un feu parce qu'eux autres, pas pareil. Il faut se responsabiliser.
Mais est-ce que c'était à Shibugamo qu'il y avait un gars, justement, qui allumait les feux volontairement?
Ouais, il est arrêté. Je pense qu'il a allumé quoi, comme 17 incendies, c'est si je ne me trompe pas. Ça. Un chiffre de fou.
Ouais. C'est ça. Mais déjà là, ça, c'est un imbécile fini. Là.
Ouais,
mais
ça.
Je parle plus de les gens ordinaires comme vous et moi qui pourraient dire « Ouais, mais moi, je vais faire un feu de forêt. Je vais faire un feu de camp qui va devenir feu de forêt. » On a chacun à se responsabiliser, puis c'est un peu ce qui est arrivé pour revenir à l'éclipse, c'est un peu ce qu'on a empêché de dire, au lieu que les parents se responsabilisent, qu'ils parlent à leurs enfants en disant « on te donne des consignes, suis-les, sinon ça peut avoir des conséquences graves », on a préféré fermer les écoles. Mais je comprends, moi, si j'avais été directeur d'école, j'aurais probablement fermé mon école parce que je ne veux pas être poursuivi par des parents qui vont m'accuser d'avoir pas été responsable.
Ben, c'est vrai,
alors que c'est leur fille qui l'a pas été.
Maintenant, on poursuit pour tout et n'importe quoi parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité. Mon cher Claude Lafleur, c'était un honneur. On va terminer notre épisode là. C'était un honneur de te reparler à nouveau, mon ami. C'était très intéressant. Merci beaucoup.
Et toujours intéressant.
Pour ceux qui écoutent cet épisode dans le futur, parce qu'on sait que tout ce qu'on fait sur Internet, ça reste et puis ça perdure. Si les gens dans 80 ans nous écoutent et puis qu'ils vont vivre l'éclipse de 2000... C'est quoi, 2106, l'autre?
Oui.
En 2106, premièrement, on vous salue. On est mort.
On espère que vous n'êtes pas aussi tata qu'on l'a été.
Ouais, c'est ça.
Alors, on espère que vous avez que l'espèce humaine a survécu à sa propre autodestruction.
Ouais, exactement. Alors, on vous rappelle que cet épisode a été enregistré en avril 2024, que nous sommes tous décédés. Et puis, soyez prudents avec l'éclipse de demain matin. Demain, oui, voilà. Alors, voilà. Alors, Claude Lafleur, merci beaucoup pour ta participation.
Ça a été un plaisir, puis au plaisir de vous retrouver dans un prochain balado.
Oui, absolument. Et puis, je vais saluer les gens, mais reste, s'il te plaît, Claude, parce qu'on va jaser de peut-être quand est-ce qu'on pourrait parler de l'Expo 67, parce que c'était très intéressant notre discussion de ce soir en plein milieu d'épisode. Là, qu'est-ce qu'on a parlé? Là.
Parfait. Je reste en ligne, je vous attends.
Absolument. Alors, merci beaucoup, mon cher Claude. Merci beaucoup, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof.
Une autre belle heure en agréable compagnie. C'est toujours si captivant et si palpitant. Merci, Claude.
Absolument, absolument.
Un plaisir.
Oui, merci aux abonnés d'avoir été présents ce soir. Je vous rappelle que les deux derniers épisodes, celui d'hier et puis d'aujourd'hui, eh bien, on l'a fait devant tout le monde parce qu'on a un bug avec StreamYard, alors on ne peut pas, sûrement à votre grand plaisir, les abonnés de Sur la Terre des Hommes et puis de Jonathan le Prof, mais on a un bug avec StreamYard, on n'est pas capable de se connecter seulement avec nos membres Patreon. Alors, ça ne serait tardé. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était une menace ou bien un avertissement. Je ne sais pas comment prendre ça, mais voilà, c'est ce qui est arrivé. Alors, merci à vous. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, baladoquebec.ca et puis YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons, alors à nos membres Patreon, les curieux stagiaires historiens, Érudit, nos deux orateurs, construction avec un S, Rivard de Rouyn-Noranda, et puis le miel Abitémis. Est-ce que tu connais le miel Abitémis, mon cher Claude?
Malheureusement, non. Je ne sais pas. Est-ce que c'est disponible à Montréal?
Sûrement, sinon je t'en envoie une caisse par la malle demain matin. Il est excellent.
Parfait, je vais aller m'aller attendre en bas.
Ouais, c'est ça.
Le meilleur miel au monde.
Ouais, c'est ça. Le meilleur miel au monde, un miel qui ne sera jamais éclipsé par un autre.
Tu vois, je m'en avais dit qu'il éclipse la compétition. Mais
éclipse la compétition, c'est pas mal la même chose. Voilà. Merci à Martin Godette de rediffuser les épisodes de Sur la Terre des Hommes sur la chaîne Twitch Touski TV le dimanche à 17h30, 18h. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier Mot. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
Salut tout le monde.
Thank you.